time.
Thomas! Get in the hole!
What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am too. And don't fall the script.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace. C'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connu aussi sous le nom de Dune.
Willkommen, bienvenue et bonsoir, bonsoir mes chers auditeurs, bonsoir mes chères auditrices, bonsoir, bonsoir et trois fois bonsoir. Et non, tu n'es pas victime d'un délirium tremens, non, tu n'es pas victime d'un complot mondial qui viserait à réduire ton cerveau à l'état de bouillie, non, tu es bien en train d'écouter Arrête ton cinéma. Et si tu es en train d'écouter Arrête ton cinéma, c'est que tu es sur les ondes positives, rassurantes, intelligentes, dociles et graciles de RDIWA 107.5 FM. Et qu'il est donc inutile, comme à chaque émission, de te rappeler que tu peux retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdiwa.fr, non point besoin inné, puisque tu le sais déjà. Alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, mes chères oreilles dociles, nous allons parler des voix off. Alors, quoi qu'est-ce que la voix off ? Eh bien, en fait, c'est un procédé narratif qui permet de poser une voix hein, sur une séquence, sur un plan ou sur une scène, alors qu'il n'y a personne, évidemment, à l'image. Non, 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 non. Sinon, ma foi, c'est un dialogue. Alors, en fait, elle peut appartenir, évidemment, au protagoniste, c'est-à-dire le héros de l'histoire, ou alors à quelqu'un qui est proche du héros, voire même divine, omnisciente, puisqu'elle n'appartient à aucun des héros présents. Alors, dans les documentaires, on appelle ça des commentaires, hein, puisqu'évidemment, ils sont là pour décrire ce qu'il se passe et que ce n'est pas une histoire. Alors, la première fois qu'on a véritablement parlé de voix off, parce qu'il faut savoir que quand même au début du cinéma, il y avait des trucs explicatifs, mais c'était des petits panneaux. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de voix, donc il fallait que les gens comprennent qu'il y avait une image, et il fallait qu'ils comprennent rapidement. Alors souvent, on leur mettait un petit encart, et qui évidemment faisait et les dialogues, et évidemment l'explication de la scène où ils se trouvaient, hein, puisque c'est quand même un peu ça avant tout. Alors la première fois qu'on a véritablement parlé donc de la voix off, et ce qui est sans doute l'une des plus célèbres, parce que évidemment ça appartient au cinéma français, donc évidemment on se tire un petit peu là, c'est la fierté nationale. Voilà, c'est dans le roman d'un tricheur de Sacha Guitry en 1936. Alors en fait, c'est qu'il y a le héros et puis évidemment une voix off qui est un peu la sienne hein, et qui donne évidemment un petit côté ironique, hein, un petit côté question et réponse du héros au héros et qui évidemment est cher à ce fameux Sacha Guitry, hein, un célèbre Sacha Guitry dont l'un des mots est « je suis contre le femme, tout contre ». Voilà. Et puis Orson Welles, lui, va adorer ce procédé et va l'utiliser évidemment pour son célèbre et cultissime Citizen Kane en 1941. Alors, vous me direz, oui, bon, d'accord, ok. Mais la voix off, en fait, ça sert surtout à expliquer. Alors, c'est vrai que c'est, en gros, 3 quarts, 90%, c'est un peu situé au début de l'histoire, parce qu'évidemment, vous, en tant que spectateur, allez rentrer. Alors, soit on se retrouve dans... Il y a deux écoles, mais ça en littérature aussi. C'est-à-dire que soit... On explique, on tient la menoute du spectateur, on lui dit ah, voilà, c'est ça, c'est mon histoire, je te le présente, ça, c'est le héros. Voilà, on se passe à telle époque. C'est... Ou alors, on est carrément la claque dans ta gueule et c'est à toi de te démerder pour comprendre ce qu'il se passe autour de toi. Hein, tu vas utiliser ce qui est à l'intérieur de ta tête, tu vas utiliser ton petit cerveau et tu vas te manier l'arrière-train pour comprendre un peu ce qu'il se passe autour de toi. Voilà, et si tu n'y arrives pas, ben. C'est tant pis pour toi. Voilà, il fallait un petit peu quand même te le bouger. Alors, il y a aussi le procédé, puisque... Oui, alors... Oui, je peux un peu ralentir le débit, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'on utilise... Bon, moi, sur les exemples que je vais vous passer, parce qu'évidemment, je vais vous passer quelques exemples, de voix off, c'est surtout très explicatif. On va évidemment dessiner un univers, expliquer le point de vue, le commencement et évidemment, comment ça s'appelle, tout ce qui va s'en suivre. Mais il y a souvent la voix off, en fait, c'est-à-dire que souvent, il y a un truc de mort, de décès. Alors, parce qu'en fait, c'est-à-dire que le personnage, comme dans American Beauty, par exemple. Voilà, on va faire un exemple, ça va être plus simple. Donc, dans American Beauty de Sam Mendes en 99, eh ben, le personnage principal, Monsieur Kevin Spacey, pour le nommer, va se présenter en tant que Lester Burnham et qu'il va mourir dans l'année qui va suivre. Donc, voilà. Donc, évidemment, nous, en tant que spectateurs, dès les premières images de vos films, donc on sait que le personnage va mourir. Mais à nous de savoir pourquoi, comment et par qui. Donc voilà, donc c'est-à-dire que le réalisateur nous donne déjà une ligne à suivre. Voilà, donc c'est ça aussi, les voix off, ça sert pas mal à ça. Et puis dans Apocalypse Now aussi de Francis Ford Coppola en 79, on sait que techniquement que le héros va en sortir. Mais il va être confronté évidemment à ce personnage charismatique qui est Marlon Brando. Et voilà, et donc on va évidemment voir vis-à-vis de leur combat à eux. Comment va-t-il s'en sortir? Donc voilà, déjà, il y a déjà un nœud. On va se dire, ah, il va rencontrer quelqu'un qui a l'air d'être supérieur. Comment il va se passer? Parce qu'on sent que le héros, il n'est pas... Ah, c'est pas l'Expendable, le type. Hein. Donc, on se dit, oula, comment ça va se passer? Et puis, il y a aussi le nom de la rose. C'est-à-dire que le personnage n'est pas mort, mais il est vieux. Voilà, c'est-à-dire que c'est des souvenirs. On pense d'une époque et en souvenir. Et donc, on sait que... Bah, c'est-à-dire que là, c'est le disciple qui parle. Donc, on sait que le disciple, techniquement, il va s'en sortir dans le film. Hein. C'est un film mystère, on sait que c'est sorti de l'univers d'Umberto Eco, que ça a été fait par Jean-Jacques Hano. Oui, c'est tout en haut. Et que voilà, et donc il présente son maître Guillaume de Baskerville et c'est pour lui qu'on va s'inquiéter parce que nous on sait que Uzo il est vivant et qu'il va s'en sortir. Mais évidemment le héros décalé, c'est Guillaume de Baskerville. Parce que l'autre, c'est né que le simple disciple, le jeune Padawan. Donc, je vais vous passer l'extrait et voilà. Et ça donne aussi une ambiance par la musique, par la voix. On rentre direct dans l'ambiance. Alors, je vais trouver évidemment ce petit passage. Voilà. Allez, en avant, Gagrand.
Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse, vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Ah, que Dieu m'accorde la sagesse et la grâce d'être le témoin transparent des événements qui survinrent dans une abbaye isolée au plus sombre du nord de l'Italie. Une abbaye dont même aujourd'hui il semble pieux et charitable de taire le nom.
Voilà, donc voilà, vous avez, c'est rien que l'ambiance. Voilà, donc évidemment, on a le voix d'un... En fait, on ne s'en doute pas que c'est Uzo, on le saura au fur et à mesure, mais rien que la voix du vieillard, on se dit que bon, Guillaume de Baskerville qui est joué ici par Sean Connery, bon, il a déjà un certain âge, donc on s'en doute que c'est quand même pas lui qui va raconter l'histoire. Hein. Oui, quand même. Je sais qu'à une époque, il était éternel, mais bon, ça a été dans les Highlanders, ça. Ce n'est pas dans, au nom de la route. Non, ne pas confondre âge. Donc voilà, vous voyez le truc. Donc voilà, on rentre déjà dans l'univers du nom de la rose. Pour les plus jeunes, oui, alors je vais sauter. Hein, vous savez, au bout d'un moment, vous savez comment est l'émission. Votre animateur de R10bois, votre animateur de Arrête votre cinéma, il est un peu shooté. Donc à un moment, il faut suivre. On arrête de faire sa vaisselle, on arrête de se faire ses petits boutons devant le miroir, on arrête de faire sa vaisselle, on s'occupe un petit peu de l'émission, on écoute un petit peu s'il vous plaît, parce que à la fin de l'émission, évidemment, je ramasse les copies. Alors voilà, pour les plus jeunes, par exemple, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'animation Mastermind, hein, évidemment, avec un méchant et un super-héros qui se battent dans la ville de Metropolis. Et voilà, et dès le départ, on a cette voix off qui raconte l'histoire on pourrait dire du héros qui est évidemment là pour l'occasion est plutôt le méchant, mais qui va évidemment devenir gentil. Et voilà, et on le met dans une position, et ça souvent les films le font, c'est-à-dire qu'il va mourir. Là, il est dans une séquence, il dit c'est bon, là, ça y est, je suis fini, je vais vous raconter comment tout s'est passé. Et évidemment, à un moment dans le film, voilà, enfin bon, je vous raconte pas la fin, je vous spoile pas. Mais bon, voilà, il y a toujours un moment où le héros raconte, ben voilà, moi, je suis dans la merde parce qu'il est arrivé ça. Et hop, on digresse, on revient en arrière. Bon, il y a beaucoup de films aussi où on passe de l'un à l'autre, voilà. Par exemple... Il y a pas mal de réalisateurs qui utilisent ce genre de procédé. Hein. Alors, l'un des plus connus, évidemment, est Terrence Malick, hein, qui adore faire ça dans Le Nouveau Monde en 2005 avec notre cher Colin Farrell, avec l'histoire de John Smith et de Pocahontas. Alors là, pas vraiment à la sauce Disney. Hein. Là, c'est plus gore. Hein. Là, c'est-à-dire que, bon, Pocahontas, version Disney, on a l'impression que c'est un peu, comment ça s'appelle, je sais pas, la semaine de l'écologie, c'est tout, c'est gentil. Bon, les méchants, ils sont un peu idiots, mais bon, voilà, tu sens que voilà, tout est possible, tout est réalisable, c'est le grand jeu de la vie. Par contre, là, dans Le Nouveau Monde, c'est le Buffalo Grill. Et puis, vers son fin de semaine, avec l'huile rance et tout, non, c'est un peu plus violent. Ah oui, disons que c'est un peu plus proche de la réalité, surtout parce que il faut savoir que quand même en la réalité, Pocahontas, elle a mangé grave, quoi. Elle a très très mal fini. Ah là, c'était violent aussi. Ah si, c'était violent. Oui, j'aurais pas aimé être elle, quoi. Tu vois, il y a des personnages que j'aurais aimé, mais ça, à la fin de sa vie, j'aurais pas été elle. Ah non, ça, non, ça, Pocahontas, c'est peu pour moi. Pocahontas pour moi. Donc voilà. Et puis Knights of Cup en 2015. Et puis Tree of Life en 2011 avec Brad Pitt, hein, le lipu. Parce que bon, quand Brad Pitt fait des films un peu. Ben, il est lipu, il fait l'amour. Vous verrez, vous regarderez le film, il fait la lip. Et avec Sean Penn et Jessica Chastain, donc évidemment c'est l'histoire aussi d'un architecte, Sean Penn, qui se souvient de son enfance, et l'histoire d'un enfant qui se confronte avec son père autoritaire, donc Brad Pitt, et autour de l'amour qu'il cristallise pour sa mère, Jessica Chastain, ouais. Ouh, maman. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup bon, il faut savoir que quand même le cinéma de Terrence Malick, c'est avant tout des images, hein, je veux dire, et des très belles images. Lui, il adore ça. Enfin, pour expliquer, c'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire de Tree of Life, on revient sur le Big Bang. Là, on est en plein complexe d'Oedipe, hein, l'enfant, la mère, le père, cet amour filial pour sa mère, le père autoritaire au milieu, qui veut tout pour son fils, enfin que son fils réussisse, là où lui, quelque part, a échoué. Et là, d'un coup, on se retrouve en plein milieu du Big Bang. On refait toute la création. Vous imaginez, d'un coup, il y a un Big Bang qui arrive, la création de la planète, les plaques des tectoniques, et ensuite il y a les dinosaures avec alors moi c'est cette scène-là de Tree of Life, mais ma parole, mais comme elle m'a kiffé quoi, c'est un truc de gueudin. T'as le petit dinosaure qui est par terre là, le Diplodocus ou je sais pas quoi là, c'est un végétarien quoi, c'est un vegan quoi, il est par terre et tout, là, il est en souffrance, il y a plus qui tombe et tout, c'est le mec et là il y a le petit Tyrannosaurus Rex ou je sais pas quoi, un Vélociraptor là, enfin un carnivore quoi, qui arrive et qui lui dit non, vas-y gamin, pose-toi, et l'autre il lève la tête, il dit ah, vas-y pose ta tête là, vas-y repose-toi quoi, vas-y parce que sinon je te bouffe, et l'autre il relève la tête. Et l'autre, il le repousse, il dit non, vas-y. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Ça vient fou dans le film. Donc voilà, excusez-moi pour la discrétion, mais non, c'est un moment, j'ai pas compris le. Voilà, mais c'est. Non, mais après, faut dire. Les films de Terrence Malick, c'est-à-dire que c'est quand même des films, quelque part. Quand tu as pas dormi de la nuit, bah tu vas pas le voir. Parce que. Ça demande quand même beaucoup de participation pour le spectateur. Après, c'est des images qui sont. Pour certains, par exemple, dans Tree of Life, il y a beaucoup de passages de la Bible. Et c'est vrai que pour certains, ça a été très très mal vu. Parce qu'évidemment, nous autres Européens, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, comme disait Freud, Dieu est mort, quoi. Ce qui est chez les Américains un peu plus compliqué, hein. Je vous rappelle quand même, et si vous avez vu beaucoup de films, il jure encore sur la Bible. Hein, le mec, il jure sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, nous, Monsieur Fillon, il pourrait. Sur la Bible. Voilà, il croirait. Et il se ferait pas de sourcils. Oh, petite attaque basse. Désolé. François, si tu m'écoutes, il y a aussi la ligne rouge, hein, à voir aussi chez Terrence Malick. Là, évidemment, l'histoire, la guerre. Et là aussi, c'est-à-dire que la voix off, c'est-à-dire que il y a aussi, par exemple, une voix off, ça peut être donc, comme je disais, un protagoniste, une voix divine qui n'appartient à aucun des protagonistes, mais ça peut être aussi plusieurs voix. C'est-à-dire que on raconte une histoire à plusieurs voix. Et c'est pour ça que moi, j'adore les voix off. Parce que j'ai l'impression, quelque part, de lire un livre qu'on étale devant moi, dont on a mis des images en mouvement, mais c'est un livre. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vos grands-mères, vos grands-pères, vos pères ou mères vous ont lu des histoires. Vous étiez dans votre lit, là, bien au chaud, et d'un coup, le papa, maman, il est en train de raconter l'histoire. Et là, vous faites des images. Voilà, et vous, c'est votre premier cinéma. C'est le home cinéma, on appelle ça. Vous faites le cinéma à la maison. Et donc voilà, et c'est génial. Et donc et là, pour certains films, moi c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient me raconter une histoire. Il y a une voix qui appartient à un conteur. Vous savez, comme les conteurs de l'époque préhistérique. Là. Donc les mecs sont dans la grotte, il y a le vieux moisi là qui raconte son histoire. Donc on ne sait pas d'où il la sort. Il rencontre, et tout le monde est autour du feu. Et là, ils sont en train de raconter une histoire. C'est trop cool, et avec le feu qui fait les ombres, et dehors il y a les loups, il y a les trucs de Poméranie là qui sont en train de hurler, et le mec il est en train de raconter une histoire. Et en plus, l'avantage, c'est que le vieux moisi, son histoire, elle est toute neuve. Parce que là, les histoires sont vues et revues et corrigées quoi. Et donc voilà, et donc... C'est ça pour moi, et c'est pour ça que j'adore, parce que ça donne une couleur, parce que ça donne une empreinte, parce que voilà, on revient à un gamin qui est en train d'écouter une histoire. Par exemple, je vais vous passer un petit morceau là, et vous allez me dire que à quoi ça vous fait penser. Alors,
Royal Tenenbaum acheta la maison d'Archer Avenue l'hiver de sa 35e année. Durant la décennie suivante, lui et sa femme eurent 3 enfants et se séparèrent.
Alors, vous allez divorcer ?
Pas pour le moment.
Mais ça risque d'être moche.
Et tu nous aimes encore ?
Bien sûr, voyons.
Tu aimes encore maman ?
Oui, énormément. Mais votre mère veut que je m'en aille. Je ne peux faire autrement que respecter son choix.
Et c'est notre faute ?
Non, non. Je n'admets que nous avons fait certains sacrifices quand nous avons voulu avoir des enfants, mais non, bien sûr que non.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle veut que tu t'en ailles ?
Il y a bien longtemps que je ne le sais plus. Mais peut-être que je n'ai pas été le plus fidèle des maris.
Bah, elle dit...
Je sais, laisse tomber, s'il te plaît, Jazzy.
Il n'y eut jamais de divorce officiel.
Merci, Patate.
Ethelyn Tenenbaum garda la maison et éleva les enfants. Leur éducation était sa principale priorité.
Oui, j'attends, je ne quitte pas. Merci.
Il me faut 187 dollars.
Va te remplir un chèque.
Bene. Si, grazie mille.
Elle y consacra même un livre. Famille de génie.
Le monsieur au pull bleu, s'il vous plaît.
Merci. J'ai en fait une double question.
Je vous écoute.
Chambre de Chaz, deuxième étage. Depuis le cours préparatoire, Chaz Tenenbaum prenait la plupart de ses repas dans sa chambre. Il buvait son café debout à son bureau pour gagner du temps. Poste de travail, magazine financier, coffre-fort. À l'entrée en sixième, il se lança dans l'élevage de souris dalmatiennes qu'il revendait à une animalerie de Little Tokyo. Il acheta des propriétés dès l'adolescence. Il semblait avoir un don presque surnaturel pour la finance internationale. Il négocia lui-même l'achat de la maison d'été de son père, à West Eagles.
Pas un geste, Jazzy. J'ai dit pas un geste.
Mais à quoi tu joues? T'es dans mon équipe.
On ne joue pas en équipe.
Ah!
Le plomb était resté logé sous la peau, entre deux doigts de sa main gauche. Chambre de Margot, troisième étage. Margot Tenenbaum avait été adoptée à 2 ans. En la présentant, son père ne manquait pas de le rappeler.
Voici ma fille adoptive, Margot Tenenbaum.
Elle était auteur dramatique et remporta un prix de 50 000 dollars en troisième. Bibliothèque théâtrale, maquette de décor, chambre noire. Un hiver, elle et son frère Richie firent une fugue et partirent faire du camping dans l'aile africaine des archives municipales.
Salut Ellie, t'as dit que je pouvais venir.
Et voilà, vous aurez évidemment tous reconnu la Fanny Tenenbaum de Wes Anderson en 2002. Alors voilà, c'est-à-dire que là, pour effectivement, le réalisateur, le Wes Anderson, nous présente évidemment toute la famille des Tenenbaum, hein, donc avec Chaz, le financier, Margot, la théâtreuse, et Richie, donc le tennisman. Et donc voilà, donc là, bon après c'est aussi l'univers de Wes Anderson qui aime beaucoup ce côté un peu théâtral de présentation. En plus, là, dans la famille Tenenbaum, carrément les comédiens sont présentés, c'est-à-dire que voilà, Gene Hackman jouera-t-elle, Gwyneth Paltrow jouera Margot, Luke Wilson jouera Richie. Donc voilà, il y a tout. Donc je trouve ça vraiment génial et j'aime beaucoup l'univers de Wes Anderson. Je pense que je lui dédicacerai une émission bientôt parce que j'aime beaucoup, beaucoup cet univers. Parce qu'effectivement, là, la voix off est très importante. Et en plus, l'image du film, c'est-à-dire que chaque chapitre, puisqu'évidemment le film est divisé en chapitres, eh ben, c'est les premières phrases que vous entendez, c'est les premières phrases qu'on peut lire. Donc c'est vraiment, vraiment un livre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, donc La famille Tenenbaum de Wes Anderson. Mais il y a aussi un autre film pour enfants que j'aime beaucoup, qui est là pour l'instant, et je trouve... Alors, je vous laisse écouter. Il va y avoir pas mal d'extraits cette session. Donc, soyez bien attentifs, mes chers auditeurs. Voilà.
J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas le film que vous allez voir. Le film que vous allez voir est extrêmement déplaisant. Si vous vouliez voir un film sur un joyeux petit elfe, il reste toutes les places qu'on veut dans la salle numéro 2. Mais si d'aventure... vous aimez les histoires d'orphelins intelligents et assez bien de leurs personnes, les récits d'incendies louches, de sangsues carnivores, de plats italiens et de sociétés secrètes. Restez donc, cependant que je retrace, pas à pas, le destin funeste des enfants Baudelaire. Je m'appelle Lemony Snicket et j'ai le triste devoir de relater cette histoire. Violette Baudelaire, l'aînée, était l'un des meilleurs inventeurs de 14 ans du monde. Ceux qui connaissaient bien Violette se doutaient qu'elle inventait quelque chose quand elle nouait ses longs cheveux d'un ruban. Dans un univers d'objets abandonnés et d'ustensiles délaissés, Violette savait que l'on trouvait toujours quelque chose. Quelque chose qu'elle pourrait transformer en n'importe quel engin, pour n'importe quel usage. Et nul n'était plus apte à tester ses inventions que son frère. Klaus Baudelaire, son cadet, aimait les livres. Ou plutôt, ce qu'il apprenait dans les livres. Les parents Baudelaire avaient une immense bibliothèque dans leur grande maison. Une pièce occupée par des milliers de livres sur tous les sujets, ou presque. Rien n'était plus satisfaisant pour Klaus que de passer l'après-midi absorbé par leur contenu. Et tout ce qu'il lisait, il s'en souvenait. Prunille, la plus jeune, avait des goûts différents. Elle aimait mordre et avait quatre dents acérées. Il y avait très peu de choses que Prunille n'aimait pas mordre. Prunille était à l'âge où l'on s'exprime surtout par cris inintelligibles. Par exemple, signifiait sans doute « Regardez cette mystérieuse silhouette qui surgit du brouillard !» Ou encore « Que fait un banquier comme Monsieur Poe à peiner dans le sable pour venir nous trouver sur la plage de Malamère ?»
Et voilà les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Brad Sieberling en 2004, tirées de l'œuvre de Lemony Snicket. Donc voilà, donc vous avez l'auteur qui est en train d'écrire son histoire propre. Parce que c'est le Jude Law qui joue, évidemment, Lemony Snicket, qui est en train de taper à la machine. Et donc, il va nous conter, à nous, spectateurs. C'est-à-dire qu'il va faire intervenir le spectateur en lui parlant, évidemment, elle lui-même. Donc, moi, j'adore vraiment ce genre de truc. Donc, La famille Tannenbaum et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Voilà, deux films. Évidemment, si vous aimez ce côté un petit peu conte, un petit côté narration, là, c'est les deux. Alors, c'est vrai que pour les voix off aussi, évidemment, tout ce qui est biographie, ça c'est pas mal. J'avais vu celle sur James Brown et puis celle qu'avait fait Clint Eastwood sur un groupe de rock dont, hélas, pour moi, j'ai complètement oublié le nom. Alors là, ce côté-là, c'est-à-dire que les gens parlaient directement aux spectateurs. James Brown expliquait un peu ce qui lui arrivait. Mais c'est vrai qu'il y a souvent pas mal de voix off. Par exemple, là dans l'Amadeus de Milos Forman, Milos en fait a utilisé Salieri qui était évidemment le grand adversaire à l'époque de Mozart, hein, celui qui hélas n'a vécu que dans l'ombre de Mozart, hein, puisqu'il était considéré comme étant le plus grand, et puis que le jour où Mozart est arrivé, eh bien il est tombé de bien haut, et voilà, et l'histoire ne retient de Salieri que finalement qu'il a été l'adversaire de Mozart et qu'il n'a pas été compositeur lui-même, hein. Enfin, s'il a été, mais bon, voilà, bon, les gens se souviennent surtout de Mozart. Barry Lyndon aussi, hein, puisque on va rester un peu à la même époque. Barry Lyndon, évidemment, de Stanley Kubrick en 75, hein, issu évidemment du roman. Là, et voilà. C'est-à-dire que bon, on se retrouve évidemment à une époque très 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 sombre de l'histoire, enfin sombre, je veux dire très chaotique, hein. Si je me rappelle bien, c'est la guerre de 7 ans, donc personne ne comprend rien, hein. C'est aussi l'époque de Fanfan la Tulipe, si vous voulez un peu situer, et donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune qui veut évidemment échapper à la guerre, qui fait un mariage d'intérêt, justement pour s'en sortir, et là dans l'œuvre, c'est-à-dire que évidemment la voix est très importante puisqu'elle raconte une histoire et qu'elle permet évidemment quelques facilités. La voix, elle sert à ça aussi dans une histoire. C'est-à-dire que ce qui est C'est-à-dire que quand on lit un livre, on peut passer 5 pages à expliquer. Quand on est dans un film, c'est un peu plus compliqué. On peut pas avoir des images, on peut faire comme la guerre des étoiles, défiler le truc, et puis au début, bah voilà, dans un univers très lointain, patati patata, à toi de lire hyper rapidement. Si tu t'en souviens pas de la première phrase, putain, t'as pas le temps d'aller revoir. Alors qu'une voix permet d'accompagner. Donc voilà, qui permet de quelques, on élude quelques propos. Donc c'est pour ça, c'est quand même pas mal classique. Dans un autre genre classique, hein, puisque évidemment Barry Lyndon c'est un classique, hein, comme la Médéus de Milos Forman. Dans un classique, il y a aussi le Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder en 1950. Donc là où on revient loin. Donc c'est l'histoire est contée par un personnage qui est déjà mort. William Holden se présente comme étant le corps gisant dans la piscine et il va conter l'histoire évidemment de tout. Il y a aussi, et ce qui est très curieux, oui alors j'aime sauter, hein, si vous voulez suivre, il va falloir y aller les gars, hein, va falloir se serrer les coudes, hein, n'est-ce pas ? Alors, va falloir y mettre un peu du sien, hein. Non pas l'animal. Hein. Donc par exemple, il y a quelques-uns qui s'amusent des voix off. Par exemple, les frères Cohen, hein, Joel et Ethan, pour ne pas les nommer, en 97, dans le Big Lebowski. Alors, le début est compté par une voix et qui nous raconte comment il connaît le Big Lebowski, même s'il ne comprend pas trop le personnage. Mais voilà, il se présente, il dit, bah voilà, l'histoire de... Et à un moment, on voit le type, on voit la voix off. Et c'est un vieux cowboy. Comprends pas, un moustachu, et voilà. Et le narrateur, donc, apparaît dans le film, et il nous parle à nous. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très génial, quoi. Tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Parce que logiquement, il y a des codes établis, la voix off, soit elle appartient, comme je vous disais au début de l'émission, soit un protagoniste, donc on s'en doute que c'est son histoire, il va pas venir d'un coup, comme Jean-Paul Belmondo dans Pierre le Fou, à nous parler d'un coup, en se disant, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non. Donc il y a un truc, le protagoniste, c'est son histoire, à un moment, il va parler avec des gens, et puis à des moments... C'est comme si on était dans sa tête, quoi. Voilà. Et là, d'un coup, dans le Big Lebowski, la voix off apparaît. On se dit, ah ouais, d'accord, ok, donc pourquoi pas. Il y a aussi des conteurs qui n'ont pas rien à voir. Mais par exemple, on va dans un autre genre classique, hein, puisque c'est le quart d'heure classique. Dans Woody Allen. Woody Allen utilise pas mal ses voix off. Mais moi, celui que j'avais le plus aimé, c'est dans Vicky, Cristina et Barcelona. Parce que le narrateur est un peu plus moderne, un peu plus sensuel. Voilà. Et donc, il va raconter l'histoire de Scarlett Johansson, de Javier Bardem et de Rebecca Hall. Donc, il va intervenir, raconter ce qui se passe dans la vie de ces personnages. Voilà, parce que en fait, ça lui appartient. C'est... Alors, je dirais pas que c'est son histoire à lui, mais c'est lui qui nous le présente. Donc, c'est comme je vous disais, les conteurs de la préhistorique. À part que, évidemment, on est dans un truc où quelque part, c'est pas vous créer l'histoire, mais c'est que on vous la pose devant votre yeux, bien sûr. Voilà. Voilà, 3 millions d'années d'évolution pour en arriver à « on vous les pose devant les yeux ». Non, on vous le met devant vous et voilà, on vous impose. C'est ça le truc, on vous impose. Par exemple, c'est pas là, il y a eu une grosse polémique. Il y a quelques années de ça, hein, n'allez pas chercher dans votre mémoire immédiate. Mais par exemple, quand on a fait « Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson, donc issu évidemment de l'univers de J.R. Tolkien. C'est-à-dire que Monsieur Peter Jackson a pris l'histoire, il l'a mis telle quelle, ok. Mais pour beaucoup, on avait vu les personnages différents. Les Balrogs, les nains, les elfes, les Gollas, on le voyait autrement, il y avait des trucs qui... Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est l'interprétation d'un réalisateur. Là, par exemple, dans le début du Seigneur des Anneaux, que je vais vous passer, évidemment, séance tenante, par exemple, en fait, il va falloir qu'il explique tout, parce que l'univers de Tolkien est quand même immense, large. Il a créé tout un univers, tout un langage, des généalogies, des personnages, et donc il est très difficile. Alors, je dis que là, pour la polémique, c'est-à-dire qu'on a affaire à des aficionados, à des gens qui ont lu ça, des gens qui adorent ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut bien être d'accord que quand vous faites un, quand vous réalisez un film, quand on vous donne le budget pour créer 3 films, à un moment, il faut aussi se dire, il y a des gens qui ne connaissent pas, des gens qui n'ont pas lu, parce que c'est quand même un pavé. Il faut savoir que quand même, le Seigneur des Anneaux, il faut quand même 100 pages avant qu'il se passe un putain de truc. Parce que les 100 premières pages, c'est l'anniversaire de Bilbo. C'est juste l'anniversaire de Bilbo, les histoires des Hobbits et tout. Et je veux dire, moi je connais des gens, ils ont fait, au bout de 50 pages, ils ont dit, c'est bon, laisse tomber quoi, si c'est tout comme ça. Les... Donc voilà, après il y a des gens qui sautent les pages, mais enfin bon, c'est un peu dommage je trouve, une fois qu'on rentre dans l'univers. Mais voilà, ça aussi. Donc il faut aussi expliquer. Et donc voilà, alors il y a des gens qui se disent non mais c'est bon, pas besoin, on connaît l'univers. Non, toi, tu connais l'univers, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Et c'est pour ça que la voix off du début du film, elle est là pour ça, pour expliquer. Et là c'est la voix de Galadriel, donc quelqu'un qu'on rencontrera, qui n'aura pas une grosse participation techniquement dans l'aventure, mais hein, c'est un personnage qu'on va rencontrer. Voilà, donc je vais vous passer l'extrait et vous allez comprendre.
Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous.
Voilà. Donc, évidemment, Galadriel qui nous raconte, qui nous conte l'histoire de l'anneau et évidemment qui va permettre, évidemment, la, toute la suite, la pérégrination de la communauté de l'anneau du retour du roi et des deux tours. Enfin, des deux tours et du retour du roi. Voilà. Hein, donc, voilà, il faut pouvoir... Et puis, ça permet de situer localement, de voir qui c'est le méchant, qui c'est les gentils. Voilà. Il y a... Donc, je vous avais parlé de Wes Anderson, je vous avais évidemment parlé de Terrence Malick, mais il y a un autre réalisateur qui utilise beaucoup les voix off, c'est notre cher Martin Scorsese. Et oui, parce que voilà, par exemple dans Le Loup de Wall Street, avec évidemment Leonardo DiCarpaccio, eh bien évidemment, biographie, le mec raconte sa vie, donc à un moment, eh ben voilà, il y a la voix off, il est en train de raconter ce qui se passe dans Casino en 95 avec De Niro, Sharon Stone et Joe Pesci. Donc il y a plusieurs voix masculines qui vont raconter ce qui se passe des aventures autour de Las Vegas. Et puis évidemment, l'une des plus connues, c'est évidemment Les Affranchis en 90 avec De Niro toujours, Ray Liotta et toujours notre éternel Joe Pesci. Voilà l'histoire de Henry Hill qui est se souvient avec nostalgie qui vient en retour de sa vie. Et puis il y a aussi le point de vue de sa femme Karen. Donc voilà, c'est parce que c'est évidemment... Alors là, quand on fait des tranches d'histoire, parce que c'est bien d'avoir des impressions. Parce que le truc, c'est que l'image, c'est facile. On a une image, on la regarde, mais il faut savoir ce qui est derrière, hein. le plan derrière le plan, comme on dirait dans Dune. Donc ça aussi, dans Interstellar de Christopher Nolan, il y a aussi, avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on voit ce que pense le personnage. Fight Club aussi, de David Fincher, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, l'histoire évidemment de ce cher Edward et de son double Tyrell Durden. Et donc voilà, il raconte ses racontes et de son univers qui est en train de se barrer, la rencontre avec Martha. Et donc voilà, donc c'est ça. Birdman aussi, d'Alejandro González Iñárritu avec Michael Keaton. Voilà, la voix est très importante. Elle ajoute quelque chose. Elle donne une nuance, elle donne une profondeur à l'image. Parce que c'est-à-dire qu'on oblige quelque part le spectateur à réfléchir. C'est-à-dire qu'une image, c'est fixe. Il y a eu une des expériences, c'est-à-dire qu'on met une image, on met la même, mais avec une ambiance différente. Et les gens ne pensent pas, alors que l'image est pareille. Voilà. Et donc, il suffit de mettre une musique triste, et ben voilà, paf, un petit coup de nostalgie, une voix joyeuse, et d'un coup, voilà. Donc, c'est très, très importante. La voix off, c'est ce qui est notre, quelque part, notre premier contact avec le film. On a évidemment les images, mais bon, ça veut... Enfin, soit on est un Stanley Kubrick ou un réalisateur qui force vraiment sur l'image et on se dit, ok, on sait à quoi on a affaire. Soit on est un espèce de joueur et à ce moment-là, on ne sait pas trop où on va. Surtout que maintenant, les films adorent ça. C'est-à-dire qu'on dit, oh là, c'est ça, et hop, turnover. Ah bah non, c'était pas ça. Vous êtes fait eu. Donc voilà. Donc la voix off, elle est pas mal. Elle permet de raconter une ambiance, des souvenirs. Voilà. Et pour moi, franchement, la voix off, elle est obligatoire. Alors pas dans tous, parce que au bout d'un moment, quand on en fait trop, ça vient vite rondondant et c'est vite chiant. Par exemple. Là, de nouveau, Sherlock Holmes, celui de Guy Ritchie, le premier comme le deuxième dans un jeu d'ombre, eh bien, au début, Watson, donc notre cher Jude Law, est en train de taper la machine et est en train de raconter qu'évidemment, le siècle arrive et que toutes les nations sont en train de se dresser les unes contre les autres parce qu'il y a des attentats. Donc voilà, on dessine, on est en train de montrer... Dans Quentin Tarantino l'utilise aussi dans Inglourious Basterds et notamment aussi dans Les 8 Salopards. Alors là, par contre, pour l'occasion, ce n'est pas au début. La voix off n'est pas au début. Alors ça, c'est rare, hein, parce que logiquement, c'est vrai qu'en gros, à part si on est dans une biographie ou dans un conte ou quelqu'un qui raconte sa vie, hein, parce que quand je dis biographie, c'est quelqu'un qui a existé, hein, dans une histoire personnelle, si on peut dire, eh bien, là, dans Les 8 Salopards de Quentin Tarantino, eh bien, ce qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait, puisque comme... notre cher ami Wes Anderson, il aime bien mettre des chapitres à ses séquences. Et bien là, c'est entre deux séquences. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est par exemple quand Samuel L. Jackson, en tant que vieux... confédéré, mais l'autre côté, des bleus là, des tuniques bleues, et bien il abat le vieux. Et à un moment, et bien paf, entre deux séquences, là, il y a une voix qui nous explique, qui nous dit « Ah là 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 là, attention, il s'est passé quelque chose d'important, mais il s'est passé quelque chose d'aussi important que vous, spectateurs, n'avez pas vu et que je tiens à vous préciser. » Et là, moi, j'adore ce petit passage-là que j'ai, évidemment, je vais vous passer séance tenante. Voilà, donc, le passage voilà, des 8 salopards. Écoutez-moi ça.
Environ 15 minutes sont passées depuis qu'on a quitté nos personnages.
Voilà.
Entre-temps, Joe Gage s'est porté volontaire pour transporter la dépouille de Smithers à l'extérieur. La courte paille a été tirée pour décider de qui allait l'aider. Obey a perdu. Chris, John Root et Osvaldo ont débattu vigoureusement à propos de la légalité de la légitime défense du meurtre qui venait de se produire. Le major Marquis Warren, qui était plus que certain de la légalité de ce qui venait de se passer, les ignorait, assis seul à la table, buvant du brandy. Le capitaine Chris Mannix a enfilé le manteau du général mort et aidé Osvaldo à allumer les chandelles et les lanternes.
Hey, Ozzy! Ça, c'est une excellente idée. Faisons un peu de lumière ici.
John Root gardait la porte fermée, attendant le retour de Joe Gage et Obey. Pendant que Bob savourait une manzana roja.
Voilà. Non, donc voilà. C'est-à-dire que là, on a eu une situation qui a été tendue, il y a eu un règlement de compte entre deux des personnages. Hop, petit entracte, si vous me permettez l'expression. Et là, on change. Et là, on arrive à l'épisode Le secret de Dormagou, que j'aime beaucoup, parce qu'elle chante une superbe chanson. Si on a assez de temps, je vous la passerai. Voilà, donc c'est génial. C'est-à-dire que d'un coup, ça fait un côté théâtral. Alors, c'est vrai que déjà, on a un huis clos. Alors, le huis clos, c'est quand même très théâtre, parce que tout se passe dans un lieu et confrontation entre plusieurs personnages. Donc voilà, c'est un petit côté théâtral. Et cette voix-là, elle permet de créer une complicité. C'est-à-dire que vous, spectateurs, savez un truc que les personnages, eux, ignorent. Et qui va évidemment changer la phase de l'histoire. Ah, la voix est complice. Il y avait aussi un autre film, Virgin Suicide de Sofia Coppola en 2000. Alors là, je vous avais parlé des plusieurs voix sur la ligne rouge de Terrence Malick. Et bien là, on trouve le même procédé. Hein. Donc c'est l'histoire évidemment des sœurs Lisbonne qui évidemment... Je ne vais pas vous spoiler, mais vous en doutez bien qu'elle se suicide, puisqu'il y a Virgin Suicide, on s'en doute bien qu'il y a un suicide quelque part. Et voilà, et donc c'est l'histoire contée évidemment par un garçon, mais par tout plein d'autres personnages des années 70, puisque l'histoire se passe dans les années 70. C'est un garçon qui se souvient, et évidemment tout plein de voix va évidemment donner leur rapport à cette histoire de « on n'a pas compris leurs gestes », et voilà, notamment aussi ce passage entre les garçons et les filles qui se parlent à travers disques interposés. Vraiment très très beau film, Virgin Suicide de Sofia Coppola. Il y avait aussi Lord of War d'Andrew Nichols en 2006. Donc l'histoire de Yuri Orlov qui est joué par Nicolas Cage et qui parle au public et qui lui explique, voilà, lui son boulot maintenant c'est, voilà, il y a deux personnes sur, alors je ne me rappelle pas de précisément, mais il dit que voilà, il y a 3 personnes sur 10 qui sont armées, à moi d'armer les 7 autres, voilà. Donc c'est toute l'histoire et donc voilà, lui il explique comment il a réussi son business, donc il nous prend à partie en tant que dire, bah voilà, moi j'ai fait comme ça. Alors me jugez pas, hein, mais moi j'ai fait comme ça. Il y a aussi, moi, et bon, là aussi, c'est un côté littéraire parce que moi je suis très littéraire. Et il y a évidemment le. Mais là, je vais pas vous le passer, c'est dommage, mais j'ai pas le temps. Mais c'est surtout le passage de Out of Africa, évidemment, hein, qui est pour moi l'un des plus grands films. Enfin, voilà, classique. Hein. Il y en a d'autres dans d'autres genres, mais pour moi, et rien que d'entendre la voix de Meryl Streep dire : moi, avant, j'avais une ferme en Afrique. Et rien que ces paroles-là, puisque c'est aussi le début évidemment de l'œuvre de Karen Blixen dont est issu ce film Out of Africa, puisque c'est une conteuse danoise, hein, qui est allée s'exiler au Kenya pour faire du café. Et donc, elle a rencontré, évidemment, l'amour, hein, grâce à Dennis, qui jouait, évidemment, par Robert Redford. Et voilà, donc, elle dispose un petit peu au début du film, voilà, elle parle de lui sans vraiment le nommer, on sait pas trop qui c'est, on a quelques images, c'est fugace. Et à un moment, elle dit, non, mais lui, il n'aurait pas aimé. Voilà, lui, il aimait que les histoires commencent comme ça. Et donc, au début, avant, j'avais une ferme en Afrique sur les bords du... Et rien que moi, ça... Ouh, bon, c'est vrai que j'ai vécu en Afrique et pour moi, évidemment, quelque part, ça... Il y a un côté nostalgique qui rajoute un peu plus qu'un spectateur lambda. Mais voilà. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que le personnage de Karen Blixen, c'est une conteuse. Et que donc, forcément, la voix est très importante. Donc voilà, évidemment, Out of Africa. Dans le dernier extrait que je vais vous passer, c'est évidemment, pour moi, quelque part, le summum de la voix off. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une émission sur un réalisateur, Jean-Pierre Jeunet. Et vous essaierez de regarder dans le www.rdwa.fr, dans la séquence, quand ça s'appelle Arrête ton cinéma. Et là, j'avais fait un début comme l'aurait fait Jean-Pierre Jeunet pour Arrête ton cinéma. Avec, à l'époque, j'étais en duo avec notre cher Mr. H, Monsieur Hugo. Et vous voilà. Et forcément, la voix off d'Amélie Poulain, le fameux destin d'Amélie Poulain. Évidemment, c'est la voix off ultime André Dussolier qui parle là et qui raconte à travers des petites anecdotes, à travers tout. C'est un peu, je sais pas si vous vous souvenez de ce film Magnolia, qui est aussi par exemple, de Paul Thomas Anderson en 2000. Et en fait, l'histoire, le narrateur raconte plein de petites anecdotes sur des meurtres complètement bizarres, sur des pluies de crapauds et tout. Et donc, il prend un peu à partir, on comprend pas au mieux. Et ben là, pareil, André Dussolier parle d'une mouche, de verres qui sont en train de voler sur une table, d'un monsieur qui règne le nom d'un de ses copains à qui il vient d'assister à ses funérailles. Et donc voilà, et pour moi, évidemment, c'est ça une voix off. Ça rentre vraiment dans un univers. Alors évidemment, c'est Jean-Pierre Jeunet, c'est Amélie Poulain. Donc voilà, je pouvais pas évidemment éviter de faire le petit côté Amélie Poulain, mais ça forcément c'est obligatoire, Amélie. On peut pas passer. C'est pour moi quelque part c'est un peu l'ultime. Les Orphelins Baudelaire, oui aussi. Wes Anderson, mais il y a quelque chose. C'est-à-dire que là, évidemment, la voix d'André Dussolier nous mène, parce que évidemment, Amélie parle aussi aux spectateurs, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de voix off dans ce film. Ah, et puis évidemment, Yann Tiersen dans la musique, c'est obligatoire.
Le 3 septembre 1973, à 18h28min32s, une mouche bleue de la famille des Californidés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à deux pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Trudaine, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en effaçait le nom de son carnet d'adresse. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain.
Voilà. Et là, rien que ça. Rien que ça. Alors que ça n'a rien à voir, des trucs sur les vers, les trucs. Mais moi, voilà. Pour moi, c'est vraiment génial, génial. J'aime beaucoup ce film pour des raisons diverses et variées. Hein. C'est pas le summum. Hein. C'est pas. Mais j'aime beaucoup ce petit côté-là, ce petit côté. Il l'avait refait avec les aventures de Tibet Spivet. J'avais moins aimé. Là, donc voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le premier et que forcément Amélie, ça a quand même fait 10 millions d'entrées. J'ai envie de dire, ça pose. Hein. Voilà, bon, évidemment, Bienvenue chez les Ch'tis, ça en a fait un peu plus. C'est autre chose. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Donc, évidemment, je vais pas vous faire une liste exhaustive. J'en ai déjà parlé beaucoup, peut-être des fois un peu trop. Mais pour moi, voilà, ces voix off, pour moi, c'est comme lire un livre. Et j'adore lire des livres. C'est-à-dire que, voilà, on rentre dans un univers, on a une voix. Et rien que ça, il y a des... Ah bon, évidemment, nous, on a aussi pas mal, évidemment, puisqu'on est en France, on a ce qu'on appelle les voix originaux, évidemment, la version française. Hein, et donc, des fois, on en perd un peu parce que quand on utilise des personnages comme ça pour utiliser des voix, c'est vraiment des voix qui sont très posées. Michael Lonsdale, rien que la voix de Michael Lonsdale, c'est déjà rien que c'est magnifique. André Dussolier, c'est déjà pas mal aussi, mais Michael Lonsdale, c'est encore mieux pour moi parce qu'il a un petit côté britannique et franchement, on a l'impression d'avoir le yeux moisi dans la caverne préhistérique. Et pour moi, c'est voilà, il y a un truc de passage de celui qui comme vous écoutez et de celui qui comme moi parle. Voilà, c'est important. C'est, j'ai bien dit dans le bon sens, c'est moi qui vous le dis et vous qui écoutez et qui, à votre tour, passerez à quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est ça la voix. Donc voilà. Donc je vais vous quitter avec évidemment un petit passage musical. C'est évidemment le petit passage de la fameuse chanson de Dummer Goo. Par contre, là, c'est quelqu'un d'autre qui la chante. C'est notre sœur Jennifer Dale. Donc, Tim Jones at Bunny Bay. Voilà, et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Écoutez tous votre voix off. Et allez au cinéma. Merci. Listen for a moment, love, and hear me tell my tale. How the sea from England shore was condemned to sail. The jury found me guilty, sir, and said the judge, said he. For life, Jim Jones, I sentence you across the stormy sea. Take my tip before you ship to join the iron gang. Don't be too gay in Botany Bay, or else you surely hang. Or else you surely hang, says he. And after that, Jim Jones, I up upon the gallows tree, the crows will pick your bones. Chance for me, should they remember what they said? They'll flog the pushing out of you out there in Botany Bay. Waves were high upon the sea, the winds approaching gales. Draw the drowned in misery, then gone turn yourselves well.
New York, avant ma naissance. Je suis à un endroit dont je n'ai jamais vu que des images. Je te connais, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis avec toi, mais je ne sais pas ton nom. Je sais que je rêve, mais on dirait que c'est plus que ça. On dirait que c'est comme un souvenir. Comment est-ce possible ?